Bonjour et bienvenue sur Parlons PMA, votre ressource autour du parcours de procréation médicalement assistée. Je suis Lisa Journiac et j'accompagne les femmes, les couples pendant leur parcours de PMA. Grâce à mon expérience dans ce domaine et mes compétences en coaching, j'ai pour mission de vous aider à mieux vivre vos essais bébés. Chaque semaine, je vous propose des informations et des conseils à travers de témoignages de personnes ayant vécu ce parcours, d'interviews d'experts en fertilité et enfin d'outils et réflexions que j'utilise durant mes accompagnements. Si tout cela vous intéresse, alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons PMA. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un traitement de procréation médicalement assistée, le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes a permis depuis plusieurs années à de nombreuses femmes, de nombreux couples, de devenir parents. Mais finalement, de quoi s'agit-il et quand doit-on avoir recours au don d'ovocytes? Le don d'ovocytes est une technique de procréation médicalement assistée qui consiste à utiliser les ovocytes d'une donneuse pour aider une autre femme qui ne peut concevoir avec ses propres ovocytes. La donneuse donc va se soumettre à une stimulation ovarienne, une stimulation hormonale, afin que l'on puisse prélever ses ovocytes et pouvoir en faire bénéficier une autre femme et lui permettre de concrétiser son projet de bébé. Il est nécessaire en général d'avoir recours à un don d'ovocytes lorsque la femme présente une insuffisance ovarienne, une ménopause précoce, une maladie génétique ou bien a subi une intervention chirurgicale au niveau des ovaires, ou bien encore un traitement de chimiothérapie, par exemple. D'ailleurs, je voulais en profiter en parlant de ménopause pour rappeler qu'une femme qui est ménopausée peut tout à fait bénéficier d'un don d'ovocytes. Et en France, elle est possible jusqu'à l'âge de 43 ans, mais par exemple en Espagne, là où je vis, il est possible d'en bénéficier jusqu'à l'âge de 50 ans, et même dans d'autres pays au-delà de 50 ans. Il est important d'avoir en tête que finalement votre âge, à vous mesdames, impacte peu le résultat en don d'ovocytes. Peut-être que certaines d'entre vous actuellement sont en parcours de FIV avec leurs propres ovocytes, et c'est vrai que quand on utilise ces ovocytes, on a cette pression du temps que nous n'allons pas retrouver dans le don d'ovocytes, ce qui peut être bénéfique. C'est bien d'avoir en tête que le don d'ovocytes est une option qui existe pour devenir parent, pour devenir maman, dans le cas où les tentatives de FIV avec ses propres ovocytes n'aboutiraient pas. J'avais envie d'aborder aussi les circuits pour bénéficier d'un don d'ovocytes. En France, le don d'ovocytes est bien autorisé et c'est tout à fait légal. Je le précise car c'est un sujet qui n'est pas toujours bien connu et parfois certaines personnes pensent que c'est interdit. De plus, comme nous n'avons pas beaucoup de donneuses en France, c'est un sujet dont on parle peu, dont on parle pas assez. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'en France, la complication de la prise en charge d'un don d'ovocytes, c'est que les délais de prise en charge d'attente selon les régions, les centres peuvent être longs. Ça peut aller de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et dans ces cas-là, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces délais, je vous invite à vous renseigner auprès de votre CECOS, qui veut dire Centre d'études de conservation des œufs et du sperme humain. Ce sont eux qui gèrent la prise en charge en don d'ovocytes en France. Si les délais sont très longs, qu'il n'y a pas de possibilité de prise en charge en France, vous avez la possibilité de vous rendre à l'étranger. Il y a l'Espagne notamment, qui est très connue pour le don d'ovocytes. Et il faut penser voilà, qu'il y a toujours cette option de l'étranger si ce n'est pas possible en France pour des raisons de délai ou qu'on vous refuse carrément une prise en charge. Ça, l'inconvénient, c'est que ça entraînera un faible remboursement de la sécurité sociale ou voire pas du tout de remboursement selon votre âge et effectivement que c'est un coût financier. En relation avec les délais d'attente en France, souvent on me pose la question « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des donneurs en Espagne et qu'il n'y a pas de donneurs en France ?» Et je pense que réellement c'est quelque chose de multifactoriel. Déjà, le circuit pour donner ses ovocytes, ce n'est pas le même en France qu'en Espagne. En France, donc, il est géré par les CECOS, qui sont des structures complètement publiques. Il y a probablement une partie administrative qui est plus lourde. En Espagne, le don d'ovocyte, c'est géré par des établissements privés. Ils n'ont pas les mêmes budgets. Ils n'ont pas le même, voilà, en termes de personnel, les mêmes limitations. S'ils ont besoin de recruter du personnel, ils peuvent recruter. Donc, il n'y a pas ce même circuit qui, peut-être en Espagne, est plus facile pour les donneuses. Effectivement, souvent, on pose la question par rapport à l'indemnisation. Donc, il faut penser qu'en Espagne, le don d'ovocytes est altruiste, mais les donneuses sont indemnisées, donc jusqu'à une certaine somme qui est d'environ 1 000 euros maximum, parce qu'il faut penser que ça doit rester quand même un geste qui est d'origine altruiste et non pas que ça soit une motivation financière. Mais cette indemnisation, elle vise vraiment à indemniser la pénibilité de la démarche, le risque. Il faut penser que les donneuses se rendent plusieurs fois à la clinique, elles doivent procéder, donc comme je disais au début de cet épisode, à une stimulation ovarienne. Donc il y a cette composante et réellement il y a une différence culturelle autour de la notion du don en Espagne qui n'est pas la même. Les personnes en Espagne donnent beaucoup plus facilement, je crois, au niveau culturel. Et je vous avoue qu'avant de partir vivre en Espagne, j'avais un peu toujours ce doute. Je me disais, mais comment est-ce possible qu'il y ait autant de différences c'est vrai que globalement, en ayant eu des discussions avec des Espagnols, j'ai pu noter quand même une différence d'ouverture autour du sujet du don. Voilà, en tout cas, les informations que je voulais vous donner au niveau de la prise en charge pour autour du don d'ovocytes. Et maintenant, je voulais également vous parler de l'aspect émotionnel lorsqu'on doit avoir recours à un don d'ovocytes. Pour certaines personnes, le don d'ovocytes est rapidement considéré comme une belle opportunité, car les taux de grossesse que l'on peut en attendre sont très bons, souvent supérieurs à ceux attendus lorsqu'on réalise une FIV avec ses propres ovocytes. Et donc cela représente un réel espoir pour ces personnes de devenir maman, de devenir parent. Pour d'autres, et c'est souvent le cas, lorsque le médecin évoque cette option du don d'ovocytes, il y a souvent un choc ou une négation, car clairement c'est une option qui n'avait pas été encore évoquée. Et surtout, ce n'est jamais la première option lorsque l'on souhaite devenir parent. Pour celles et ceux qui sont passés par un parcours de FIV, vous avez peut-être déjà vécu ce deuil de la conception naturelle en devant vous lancer dans un parcours de FIV. Et bien ici, effectivement, il y aura un autre deuil à faire qui est le deuil de sa propre génétique. Donc on va avoir donc ce processus de deuil de la génétique qui va se faire probablement en traversant diverses étapes émotionnelles et qu'il faudra accompagner d'une réflexion, d'information. Souvent, ce deuil de la génétique suit une courbe du deuil qui va commencer, comme je disais, par un choc, puis probablement va intervenir la colère, un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec mes propres ovocytes ? Une étape ensuite de négation qui peut-être va vous empêcher d'avancer en disant que voilà, c'est pas possible, que ça devrait marcher. Et puis ensuite une étape de résignation qui peut s'accompagner de peur, de tristesse, de doute. Et à partir de là, en fait, pour certains, cela s'arrêtera ici avec un deuil de la maternité, de la parentalité. Ou bien la femme, le couple se tourneront vers d'autres options, comme l'adoption, et tout ça, c'est OK. Pour d'autres, cette question du don va mûrir lors du passage par ces différentes étapes, pour finalement arriver à une étape d'acceptation de cette option comme une opportunité pour devenir parent. Pour arriver à cette étape, il est important de mettre en lumière les doutes, les questions, les émotions que celui-ci implique, tout en ayant les bonnes informations, les bons outils. Souvent, des questionnements se posent concernant, par exemple, la ressemblance du futur enfant, le devenir du futur enfant, en parler, ne pas en parler à son entourage, à son enfant. C'est ce que nous abordons, en fait, lorsque j'accompagne des femmes, des couples dans cette démarche. Il est vraiment important, voilà, d'identifier les croyances autour de la maternité, de lever les doutes. Par exemple, on peut se poser la question de la relation mère-enfant et la génétique. Il faut savoir qu'il y a une étude récente qui a été publiée le 15 mars dernier, où de jeunes adultes ont été interrogés et en fait, dans la grande majorité des cas, ils expriment le fait que la génétique ne soit pas la même que leur mère, ne modifie pas du tout et n'impacte pas de manière négative la relation qu'ils ont avec leur mère. Ça, par exemple, sont des éléments importants à avoir en tête parce que ça fait partie des questions que l'on peut se poser lorsqu'on veut avoir recours au don d'ovocytes. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ces sujets dans cet épisode parce que je pense qu'il faut pouvoir se poser toutes ces questions pour pouvoir avancer vers cette acceptation et pour pouvoir avancer sereinement. On retrouve souvent, comme je le disais, dans le don d'ovocytes des croyances qui ne sont pas toujours vraies aussi parce qu'on a tendance à penser que si on a un enfant avec ses propres gamètes, ses propres ovocytes, déjà il va forcément nous ressembler. Je pense qu'autour de nous, on a tous des exemples d'enfants qui ne ressemblent pas comme deux gouttes d'eau à leurs parents, alors qu'ils sont la même génétique. Donc, inversement, on peut retrouver cette peur de se dire « mon enfant ne va pas me ressembler ». Il faut penser qu'en Espagne ou en France, la donneuse qui va être choisie pour vous, la receveuse, madame, elle devra avoir les mêmes caractéristiques physiques que vous, d'accord, déjà de base. Et ensuite, il faut penser que un enfant, par la suite, va mimer vos gestes, parce que ça fait partie de la façon dont se fait l'apprentissage aussi de l'enfant, et va générer aussi ses ressemblances. On peut également se poser des questions autour du don, de qu'est-ce qu'être mère, qu'est-ce qu'être parent, est-ce que finalement c'est vraiment seulement une histoire de génétique? Est-ce que toutes les mères biologiques sont-elles de bonnes mères? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à votre enfant? Qu'est-ce que cela signifie vraiment quand on parle de la notion de famille? Par exemple, est-ce que vous êtes proche toutes les personnes avec qui vous partagez votre génétique, ou est-ce qu'il y a des personnes que vous considérez de votre famille alors qu'ils n'ont pas du tout de lien génétique avec vous? Voilà, toutes ces types de questions, en fait, vont vous aider aussi à avoir une réflexion autour du don d'ovocytes sur lesquels on peut travailler. Cela peut vous aider également de vous projeter et de réfléchir aussi à qui vous souhaitez en parler, si vous souhaitez en parler à votre enfant. La tendance actuelle semble être de quand même en parler à un enfant dès son plus jeune âge, à travers deux livres, pour expliquer le processus et qu'il l'intègre, car c'est son histoire et ça permet de se construire de manière plus sereine et de connaître en fait ce choix que vous avez fait, qui est un choix d'amour. Il faut toujours penser qu'un enfant en fait ne va pas juger le choix de ses parents. Il va comprendre par cet acte en fait, par l'histoire que vous allez lui raconter. Vous pouvez par exemple aussi, pour vous aider dans votre réflexion autour du don, imaginer d'ores et déjà l'histoire que vous raconterez à votre enfant, parce que clairement c'est une histoire d'amour. Et est-ce que ça c'est pas un élément essentiel? Même si c'est un choix qui n'était pas forcément une évidence dès le départ. Il faut penser aussi que dans le cadre du don d'ovocytes, on parle souvent d'épigénétique. Donc il faut savoir qu'un embryon qui est transféré chez une femme, s'il est transféré le même embryon chez une autre femme, donnera naissance à un bébé qui ne sera pas exactement le même, puisqu'il faut penser qu'il y a ces échanges qui se font entre la mère et l'enfant, et des modifications qui s'établissent, et ça c'est vraiment important parce que vous avez un réel impact sur cet enfant durant votre grossesse. Donc je crois que pour conclure un petit peu sur cet épisode autour du don d'ovocytes, il faut pas oublier que vous êtes en tant que femme très importante en fait pour cette cellule, et cet embryon, il prend vie grâce à vous, grâce à votre corps, et c'est vous qui avez pris la décision d'avoir cet enfant. Donc le don d'ovocytes, ça sera pour certains une opportunité de devenir parent et de démarrer cette nouvelle histoire, cette nouvelle aventure en tant que parent. C'est vrai que étant en Espagne et en travaillant avec des cliniques espagnoles, j'ai vu de nombreux couples réaliser leur rêve d'être parents grâce au don d'ovocytes et qui sont très heureux et ont pu vivre leur maternité-paternité. Mais il faut penser que c'est une option pour laquelle il est important de se préparer et que parfois on peut faire le choix de ne pas poursuivre une parentalité. De faire le deuil de la parentalité ou d'aller, comme je le disais plus tôt, vers d'autres options. En tout cas, si vous avez besoin d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. J'accompagne des femmes, des couples qui sont en parcours de don d'ovocytes ou tout du moins en réflexion. N'hésitez pas à me contacter, à m'écrire sur Instagram ou bien par mail. Je vous laisserai mon adresse mail dans la description de cet épisode. J'espère que ces informations vous seront utiles dans votre parcours, dans votre projet de bébé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons PMA. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager si celui-ci vous a plu et à me retrouver sur mon compte Instagram, Lisa Journia Coaching, pour échanger. À bientôt !